Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est le dernier cours de cette année. Donc un moment de soulagement pour tous. Non, je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ces cours. Voilà, nous allons finir en abordant ce thème de la tension corticale, le second volet du thème général de la tension cellulaire que nous avons commencé de voir la semaine passée. Je précise tout de suite, comme je l'avais déjà dit, qu'à la fin de ce cours, que je compte terminer en 1h30, je propose pour ceux qui le souhaitent de rester dans cette salle pour un temps de discussion, questions autour de toutes les notions abordées cette année. Voilà. Donc un petit résumé, comme j'ai coutume de le faire, du cours de la fois précédente sur la tension de membrane, qui est une des deux composantes de la tension cellulaire. La tension de membrane, en fait, résulte de propriétés de la membrane qui est un fluide qui est inélastique et qui a néanmoins des propriétés extrêmement fluides. Donc la tension de la membrane a deux composantes, une qui est ce qu'on peut appeler la tension à proprement parler dans le plan de la membrane et celle qui résulte des interactions dynamiques avec le cortex d'actine dont nous allons parler aujourd'hui. Les propriétés inélastiques de la membrane plasmique font que, dans un certain nombre de conditions, la tension de la membrane peut se propager quasiment instantanément de part en part de la cellule et donc permet donc de transmettre une information locale, initialement induite localement, par exemple par des forces de protrusion du cytosquelette sur la membrane, des forces normales au plan de la membrane qui pourraient se propager instantanément à d'autres parties de la cellule. L'autre point important est que ces couplages dynamiques entre la tension de la membrane et les propriétés du cytosquelette d'actine sous la membrane, en particulier les propriétés de polymérisation et de renouvellement, permettent de contrôler et de déterminer des choses comme la forme de la cellule et même sa motilité. Nous avons pris l'exemple remarquables des kératocytes sont une forme de motilité cellulaire un peu extrême, au sens où ce sont des cellules qui migrent extrêmement rapidement, mais les notions que nous avons vues dans ce cadre-là peuvent se retrouver à des degrés divers dans d'autres formes de motilité cellulaire. Par ailleurs, il existe des moyens de régulation en fait, de ces propriétés d'interaction dynamique entre la membrane et le cytosquelette qui en fait, dépendent de l'existence d'un réservoir de membrane qui peut se mobiliser à des temps caractéristiques variables d'une cellule à l'autre et qui permettent, entre autres, d'ajuster, d'assurer l'homéostasie de la tension cellulaire dans des conditions où la cellule rencontrerait des perturbations diverses et variées, comme par exemple des variations de l'osmolarité de l'environnement ou en fait dans des conditions aussi de stress mécanique que la cellule subirait au cours de sa physiologie. Donc il existe un certain nombre de processus qui permettent à la cellule d'ajuster sa tension de façon assez rapide et nous en avons cité quelques exemples. Le point que je voulais aussi souligner est le fait que les couplages dynamiques entre l'actine et la membrane permettent de réguler la viscosité effective de cette association et dont les temps caractéristiques en fait, peuvent être importants dans un certain nombre de processus dynamiques de remodelage de la forme ou de motilité. Voilà. Donc on voit bien que quand on parle de tension de membrane, on est amené à parler très souvent en fait, des interactions dynamiques avec le cytosquelette cortical. Et donc aujourd'hui, je me propose de discuter avec vous de la tension qui résulte des propriétés même de ce cortex d'actine et de comprendre son origine et son implication dans la régulation de la forme des cellules et des aspects dynamiques, comme nous le verrons à la fin de ce cours. Donc pour remettre les choses dans un contexte clair, donc la tension cellulaire que nous avons parfois décrite comme tension de surface, dans une description thermodynamique de la forme cellulaire, a deux composantes, la tension de membrane et cette tension corticale. Et donc, la tension corticale, en fait, comme nous allons le voir, émerge des propriétés collectives des filaments d'actine et d'un certain nombre de protéines qui sont associées à ce cortex d'actine, en particulier les moteurs moléculaires. Donc tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de revenir un peu aux sources historiques. En fait, l'intuition d'une contractilité du cortex a été décrite. J'aimerais souligner deux exemples caractéristiques de ce qui était décrit comme la tension du cortex ou de la couche superficielle. Il y a tout d'abord une littérature qui est bien décrite dans les mains de Warren Lewis, qui en fait se fait le défenseur d'une thèse de l'existence d'un plasmasol et d'un plasmagel. Il y a cet article en particulier dont je donne les références, qui, dans le contexte de la description de la mitose, caractérise dont cette couche superficielle sous la forme d'un gel. On peut voir ici l'extrait en fait, du résumé de cet article dans lequel il est dit que « The assumption that cells possess a superficial layer of gelated cytoplasm, ce qu'il appelle le plasma gel layer, which automatically exerts continuous contractile tension, and that this layer undergoes various local and general changes in viscosity and thickness, with corresponding variations in its contractile tension, offers a key to one of the important factors concerned in changes of cell form, in cell locomotion and cell division. » Donc on voit ici clairement la prise en compte des propriétés de contraction du cortex, de la tension contractile, contractile tension, dans l'explication de la forme et des dynamiques cellulaires. Une autre revue sur laquelle j'attire votre attention est extraite de cet ouvrage très général de Seyfriedz, édité par Seyfriedz, sur la structure du protoplasme, dans lequel on retrouve encore un article de Lewis qui, s'appuyant sur la théorie de Samuel Mast, en fait, défend l'idée encore que le plasmagel à la surface des cellules joue un rôle important dans les phénocytes divers, que les blebs cellulaires, qui sont très très bien décrits, et dans lesquels, par exemple, les interactions entre le plasmasol qui peut en fait traverser et en fait tendre le plasmagel, comme on le voit maintenant décrit dans la théorie des blebs, hein, qui, comme vous le savez, ces 15 dernières années a été l'objet de l'attention de nombre de biologistes cellulaires et de physiciens. Donc, en particulier, il propose que ce gel a une contractilité inhérente, dont il est clair qu'à l'époque, on n'avait aucune notion à un niveau moléculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la source d'inspiration pour cette théorie est en fait la considération de phénomènes comme la locomotion dans des amibes, améboïdes ou des... ou alors la division cellulaire. Voilà. Et on retrouve ici un autre extrait en fait, de l'article dans cet ouvrage édité par Seyfriedz, dans lequel il est dit que « The contractile tension exerted by protoplasm play important roles in the activities of cells and organisms, some of which are to be considered in the following pages. » Donc, pour ceux qui sont intéressés de comprendre en quels termes Lewis caractérise ce plasmagel, je vous invite à vous pencher sur ces documents qui peuvent se retrouver sur Internet sous la forme d'un PDF. L'autre source d'inspiration est finalement celle que nous connaissons, vu que nous l'avons abordée lorsque nous discutions de l'adhérence, à savoir Hofstadter, qui était un scientifique beaucoup plus large que parfois il n'est dit, ne retenant de lui que des aspects de motilité ou d'adhérence. C'est un des premières personnes qui en fait, a décrit au cours des processus de gastrulation, donc de développement embryonnaire, ce qu'il appelait en fait ce manteau élastique à la surface des embryons, notamment d'amphibiens. Je cite un exemple d'un article où il caractérise ceci, « Properties and functions of the surface coat in amphibian embryos ». Et en fait, il caractérise la nature contractile de ce cortex, le fait qu'il en fait, il a des propriétés supracellulaires, il se situe donc à la surface d'un embryon et il tente d'expliquer des propriétés d'invagination dépendantes de ses forces contractiles. Il le décrit en particulier comme un matériau élastique. Il est assez intéressant de voir qu'à cette époque, en fait, la littérature décrit à la fois les propriétés contractiles de ces structures cellulaires ou tissulaires, en même temps que leurs propriétés mécaniques, les propriétés viscoélastiques. Donc il y avait déjà en fait, toute une littérature parmi les biologies cellulaires et les biologies du développement qui en fait, est utilisée par un nombre de biologies du développement et biologies cellulaires aujourd'hui, mais qui en fait a des racines extrêmement anciennes. Voilà, donc ça c'était pour simplement partir de quelques sources historiques, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais celles-ci ont attiré mon attention. La description en fait de ce cortex, nous pouvons maintenant la voir de façon remarquable en utilisant les techniques de microscopie électronique, et en particulier celles qui en fait, peuvent fracturer la cellule, et par, comme on peut le voir ici dans cet article de référence de Riko Kusumi, où en fait on voit donc ici le cortex d'une cellule avec l'enchevêtrement de ses filaments d'actine et ici au grossissement on voit en fait même la taille du réseau et nous allons voir les grandeurs caractéristiques de ce réseau. Cette couche d'actine, en fait, a une épaisseur qui varie d'une cellule à l'autre, entre 20 et 250 nanomètres. Il a une nature isotrope. On voit en fait qu'il n'y a pas de direction privilégiée au filament d'actine. Et le point qui est important de souligner est qu'il y a des interactions qui sont spécifiques entre ces filaments d'actine et la membrane plasmique. Donc, vous vous souvenez, dans le cours précédent, je soulignais notamment en quoi la nature de ces interactions dynamiques joue un rôle important dans la compréhension notamment des propriétés de viscosité à l'interface entre membrane et cytosquelette d'actine. Elles dépendent pour partie de ces protéines de la famille des ERM, qui sont les protéines qui ont la double caractéristique de se lier d'un côté avec les filaments d'actine et de l'autre avec des lipides, notamment par la propriété de liaison aux phosphoinositides, en particulier PIB2. Il existe toute une régulation complexe dans la cellule qui modifie, par phosphorylation entre autres, les propriétés d'interaction entre lipides et cytosquelette d'actine. Cette famille de protéines permet en fait des interactions multiples de très faible affinité entre la membrane et l'actine et permet donc cette association permanente entre le cortex d'actine et la membrane. Ce cytosquelette d'actine n'est pas simplement un réseau dense dont l'organisation isotrope est assez remarquable, il est aussi extrêmement dynamique. Pour illustrer ce fait, j'ai choisi de vous montrer en fait un embryon de drosophile dans lequel vous voyez des cellules épithéliales, une cellule ici qui s'est divisée, d'autres qui subissent des déformations diverses et variées. Vous voyez ici les filaments d'actine marqués par une protéine qui se lie à l'actine et fusionnée avec GFP. On repère bien, pour nombre de cellules, l'organisation relativement isotrope du réseau. Et dans d'autres parties de la cellule, notamment lors de la formation de du sillon de cytokinèse, on voit ici une organisation plus parallèle des filaments d'actine. Donc on voit ici en fait une structure extrêmement dynamique qui, sur des temps de plusieurs dizaines de secondes, en fait se comporte comme un réseau qui lui aussi a des propriétés viscoélastiques remarquables. Donc retenons un réseau enchevêtré dynamique. Je propose maintenant de donner un certain nombre d'ordres de grandeur qu'il est important d'avoir à l'esprit pour décrire les propriétés mécaniques de ce réseau cortical. Tout d'abord, soulignons que la mécanique de ces réseaux de filaments d'actine dépend des propriétés intrinsèques des filaments d'actine, lesquelles ont été étudiées in vitro, pour, à certains égards également in vivo. Et en fait, la physique de ces polymères semi-flexibles, en fait, il y a une grande littérature qui y est associée. On peut notamment caractériser la longueur de persistance, qui est en fait une longueur de corrélation liée en fait à l'agitation thermique, qui se définit comme le rapport entre le module bending modulus divisé par KT, et dont l'ordre de grandeur est de l'ordre de 8 à 17 microns pour les filaments d'actine, en tout cas mesurés in vitro. Donc en fait, ça veut dire que sur une taille d'une cellule de plusieurs, de l'ordre de grandeur de 10 microns, hein, en ordre de grandeur, ça veut dire que les filaments d'actine sont peu déformés. On verra en fait qu'il existe des moyens de déformer localement les filaments d'actine, mais pour ça il va falloir des processus actifs, notamment l'activité de moteurs moléculaires, ce qui aura une grande importance pour l'explication de la contractilité, de la tension dans un réseau d'actine. Les ordres de grandeur du bending modulus de l'actine est envoyé assez faible, hein, 4·10−2 piconewton par micron carré. Cela dit, donc je n'ai oublié la référence que je mettrai dans le PDF sur le site du Collège de France, mais en présence de cofiline, hein, qui est une protéine donc, qui peut assurer le clivage de filaments d'actine, il y a des modifications en fait, du bending modulus d'un ordre de grandeur à peu près, ce qui montre en fait, que l'association de protéines avec les filaments d'actine peut modifier les propriétés de courbure en fait, des filaments d'actine. Donc il existe donc, un certain ordre de grandeur de longueur de persistance, mais les propriétés en fait, des filaments d'actine peuvent être modifiées par des protéines qui s'y lient dans la cellule. Donc considérez ce domaine comme largement aussi à explorer in vivo pour en apprécier l'importance. L'organisation, la distribution des filaments, des longueurs de filaments extrêmement importantes. Nous rediscuterons de ce point particulier dans l'explication des propriétés de tension corticale. Le turnover des filaments, vous avez vu que le réseau est dynamique, mais pas simplement en termes de position relative des filaments, mais également chaque filament en fait, a une demi-vie de l'ordre de 10 à 50 secondes. l'organisation géométrique des filaments dans le réseau, en fait l'ordre de grandeur du maillage du réseau est de 50 à 250 nanomètres. Je me réfère pour cela à l'article de Moroney et Kusumi dans lequel on voit ici les distributions dans différents types cellulaires du maillage du réseau. Hein. On voit qu'il varie singulièrement d'une cellule à l'autre, mais en gros, en ordre de grandeur, nous voyons que c'est de l'ordre de la quelques dizaines à centaines de nanomètres. Et évidemment aussi les propriétés d'interaction des crosslinkers, dont les cinétiques d'échange, association-dissociation, sont extrêmement rapides, vu qu'elles sont de l'ordre de la seconde, parfois inférieures à la seconde. Donc on voit donc un réseau qui est complexe, vu qu'il résulte d'interactions de filaments qui ont des propriétés particulières, de leur arrangement et de leurs interactions dynamiques. L'autre point sur lequel nous allons revenir en détail est donc la propriété de contractilité. Il ne s'agit pas simplement d'un réseau de polymères semi-flexibles, mais en fait d'un réseau actif, d'un gel actif de polymères semi-flexibles. La nature active de ce réseau provient de l'existence de moteurs moléculaires, qui sera l'objet d'une étude détaillée tout à l'heure. Et on peut caractériser les propriétés viscoélastiques de ce réseau, et en particulier soulignons le fait que sur des temps courts, j'entends par là de l'ordre de la seconde ou quelques secondes, ces réseaux se comportent de façon élastique, dans lesquelles l'énergie élastique en fait peut être est stockée en fait dans les configurations du réseau par les interactions multiples qu'il y a dans le réseau. Mais sur des temps plus longs, typiquement le temps qui dépasse le temps caractéristique de renouvellement des crosslinkers, des filaments d'actine, etc., etc., ces réseaux se comportent comme des fluides qui peuvent fluer ou s'écouler. Il y a aussi des propriétés remarquables décrites in vitro, principalement, mais qui ont de grandes raisons d'également avoir une pertinence in vivo. C'est ce qu'on appelle le raidissement à la déformation, si j'essaie de traduire strain stiffening, et qui, en fait, a été caractérisé notamment dans les conditions de cisaillement, donc externes au réseau, et qui peuvent venir par exemple de propriétés de stress venant des déformations de la cellule, mais qui également étaient décrits comme pouvant provenir des stress produits de l'intérieur par l'activité motrice des moteurs moléculaires, donc stress extrinsèque et extrinsèque. Ou également une littérature qui caractérise, en tout cas in vitro, les propriétés de fluidisation de ces réseaux par les moteurs. Donc vous allez voir qu'il ne suffit pas simplement de moteurs pour produire de la tension dans un réseau. J'ai cité deux références classiques de ce phénomène. En fait, si l'on met des moteurs sur des filaments d'actine, dans certaines conditions, on fait comme mettre de l'huile dans un plat de spaghetti, au sens où on fluidifie le réseau, et on ne voit pas l'émergence naturelle de contractilité. Donc finalement, on voit qu'en fait que c'est assez complexe et qu'il faut plus que des moteurs moléculaires et toute une série de propriétés que nous allons voir dans la suite de ce cours. J'attire votre attention sur une revue intéressante qui, en particulier, souligne un certain nombre de propriétés de réseaux contractiles. Je m'appuierai sur notamment deux revues. Nous en verrons la suivante bientôt. Nous allons voir à différentes occasions de ce cours différentes façons de modéliser de façon physique ces réseaux et qui en fait permettent de poser différentes questions. L'une assez classique et qui est en fait liée au fait qu'on peut moyenner les propriétés du réseau qui émergent d'interactions au niveau moléculaire. Et en ayant cette approche continue, on peut caractériser sur des temps longs des propriétés comme l'écoulement des réseaux. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Donc en particulier, considérant le fait que les filaments d'actine ont les propriétés de renouvellement, qu'il y a des moteurs moléculaires, nous verrons cela plus en détail, qui ont les propriétés d'association, de déplacement vers les extrémités barbées des filaments d'actine, les extrémités plus, des crosslinkers qui ont des interactions élastiques réversibles avec les filaments d'actine et qui donc produisent une tension corticale à la surface d'une cellule. On peut donc moyenner ces propriétés et étudier donc à la fois des déformations cellulaires, nous en citerons quelques exemples, et également les propriétés dynamiques d'écoulement. Nous verrons également l'application de ce genre de notion tout de suite. Alors, les cellules ont une tension corticale, et il existe de multiples moyens de contrôler spatialement cette tension corticale. Et pour vous citer deux exemples, ceux précisément que j'ai mentionnés dans les sources historiques, des gens qui, comme Louis, se sont intéressés, ont mis en évidence, ou fait l'hypothèse en tout cas, d'une tension corticale sans la mesurer, on voit dans le cas de la division cellulaire, ou dans le cas de la migration cellulaire, qu'une organisation spatiale de cette tension corticale peut induire des changements de forme. en particulier l'accumulation d'une tension dans la partie médiane de la cellule produisant cette déformation qui est en fait le précurseur du front de cytokinèse lors de la division cellulaire, ou alors lors de la migration, l'accumulation de tension corticale dans la partie postérieure de la cellule qui permet entre autres le détachement à l'arrière de la cellule et qui est un élément important de la propagation donc, de la cellule. La tension corticale peut être isotrope, comme on peut le voir par ces flèches, étant les mêmes dans toutes les directions de l'espace et produisant des déformations isotropes dans la cellule, mais elle peut également être contrôlée spatialement, produisant une anisotropie qui aura des conséquences sur la forme des cellules. Ces propriétés d'orientation des forces sera une notion que nous aborderons plus en détail l'année prochaine dans un contexte développemental. Donc, retenez l'idée qu'il existe des moyens de contrôler spatialement la tension corticale. J'aimerais venir maintenant sur un point qui est important, qui sont les dynamiques qui émergent des propriétés de ce réseau. Tout cela en les voyant d'une façon très macroscopique, lissée, nous verrons ensuite comment ces propriétés de tension émergent des interactions moléculaires, qui est un enjeu particulier. Et en particulier, cette notion de découlement du réseau d'actomyosine, qui a attiré l'attention, a été popularisée dans un article célèbre de Dennis Bray et White en 1988, qui dans Science fait l'hypothèse que le processus de division cellulaire revient d'une régulation spatiale des propriétés contractiles du réseau, et en particulier l'idée d'une relaxation. Donc il décrit finalement la cellule comme enveloppée par un réseau élastique qui pourrait se relâcher au pôle de la cellule, et de ce relâchement polaire du réseau d'actomyosine, il y aurait une redistribution suivant un gradient de tension corticale, en tout cas c'est l'hypothèse qu'ils font, et qui générerait un écoulement le long de ce gradient, l'accumulation dans la partie la plus centrale du réseau d'actomyosine. Et donc cet article, en tout cas, formule l'hypothèse qu'un gradient de tension corticale émergeant d'une régulation spatiale de la relaxation de ce réseau induirait des phénomènes comme la cytokinèse par un écoulement représenté par ces flèches, ou alors même le phénomène de migration cellulaire dans lequel il y aurait par relaxation dans une partie de la cellule, brisure de symétrie, redistribution à la partie postérieure, avec un écoulement qui a été décrit. Souvenez-vous même l'article de Mike Sheets que nous avons vu la dernière fois, dans lequel il décrivait, dans la diffusion stochastique de molécules à la surface, de temps en temps, un transport dirigé qui était dépendant de l'actine dans les cellules qui migrent. Voilà. Donc ici, il y a bien un écoulement cortical des réseaux d'actomyosine. En tout cas, un article fondateur à titre d'hypothèse. J'aimerais maintenant, en sautant un certain nombre d'années, voir comment ce modèle a été testé et, à vrai dire, ajusté. Donc, voici une reformulation de cette notion, en particulier l'idée que, dans le cadre de la division cellulaire, mais également dans un autre exemple dont nous allons parler maintenant, qui est en fait un exemple remarquable, d'écoulement à une échelle macroscopique sur plusieurs dizaines de microns dans l'embryon précoce d'une hématode Caenorhabditis elegans, dans laquelle la brisure de symétrie de l'embryon, qui vient en fait effectivement d'une relaxation polaire du réseau d'actomyosine, représentée par ces filaments d'actine et les moteurs en vert, l'entrée du spermatozoïde dans une partie de la cellule induit une relaxation du réseau par inhibition du moteur myosine 2, qui génère un écoulement représenté par ces flèches, avec ici, vous voyez représenté la vitesse d'écoulement plus importante de la partie postérieure et qui diminue vers la partie antérieure, et ici un gradient de contractilité. Alors nous allons voir la différence entre contractilité et tension corticale, qui n'est pas la même chose. Et de façon équivalente, mais dans une version symétrique, le même phénomène au cours de la division cellulaire, avec un écoulement bilatéral vers la partie médiane, émergeant d'un gradient de contractilité du réseau d'actomyosine. Donc, gradient de contractilité ou gradient de tension corticale, qu'entend-on par là ? Alors, j'aimerais, pour établir cette distinction, me référer à cet article, je trouve assez remarquable et classique sur cette notion, qui est précisément celui d'une étude de l'embryon de C. elegans, le nématode, dans laquelle nous avons vu qu'il y a donc ce déplacement antérieur, cet écoulement antérieur du réseau d'actomyosine. Déjà, pour décrire en fait de façon simple le modèle continu dont je parlais tout à l'heure, donc une version hydrodynamique de l'écoulement du réseau d'actomyosine, on peut définir la tension corticale T comme étant la somme d'un terme de contractilité qui vient en fait de l'activité propre du réseau, du moteur moléculaire agissant sur les filaments d'actine, et qui est directement lié, de façon vraisemblablement proportionnelle, bien qu'il soit très difficile de le déterminer, avec la concentration locale ou l'activité du moteur moléculaire, donc ce terme de contractilité, et également un terme en fait, qui est une terme en fait, de viscosité qui défend en fait, du taux de compression du réseau, donc V est la vitesse, donc le gradient de vélocité défini en termes de compression, modulo un terme de viscosité dans propre au réseau d'actine, d'actomyosine. Et par ailleurs, les déplacements latéraux de ces réseaux dans la cellule, un gradient donc, de tension, un gradient spatial de tension, génère donc un écoulement modulo un terme de friction, gamma. Et on peut définir donc une longueur hydrodynamique qui sera la racine carrée du rapport de cette viscosité sur cette friction. Donc les auteurs se sont donné pour objet d'étudier les propriétés de ce réseau d'actomyosine en faisant des expériences d'ablation où en fait on casse avec un laser infrarouge ou UV le réseau d'actomyosine et on regarde les propriétés de relaxation instantanée de ce réseau et finalement en considérant que se situant à des temps très courts, on voit principalement les propriétés de relaxation immédiate élastique du réseau. Et les auteurs en particulier ont fait deux types d'ablations, celles qui sont perpendiculaires au sens d'écoulement, donc que l'on voit ici représentées en rouge, donc les relaxations normales par rapport au sens d'écoulement du réseau, ou en bleu, les relaxations parallèles, ou en rouge, ici dans la partie antérieure, mais avec des flèches vides, les relaxations dans le sens d'écoulement du réseau. Et vous voyez ici, typiquement, les vitesses de relaxation en fonction de la position, on voit ici le temps après l'ablation, et vous voyez donc ces différentes courbes, et ici la synthèse en termes de dynamique. Deux points importants sont à extraire de ces expériences. Il existe un gradient antéro-postérieur de relaxation qui est normal au sens d'écoulement, représenté par cette flèche en rouge, qui est plus importante dans la partie antérieure que dans la partie postérieure. D'accord ? Alors que dans le sens parallèle de l'écoulement, il n'y a pas de gradient. D'accord ? Donc en fait, il y a bien un gradient de contractilité, mais il n'y a pas un gradient de tension corticale. Il y a un gradient T, mais il n'y a pas... il y a un gradient de contractilité C, mais il n'y a pas de gradient de tension corticale. Et la raison, en fait, c'est qu'il existe un écoulement du réseau qui donc a sa contribution. Et donc, cela se manifeste par un terme d'anisotropie de tension. Quand on fait une ablation, ce que l'on mesure, c'est en fait le paramètre de tension corticale, d'accord ? En tout cas, relative. Donc, l'argument est le suivant. Si la viscosité, référons-nous à cette équation, si le terme de viscosité pouvait être négligé, parce que par exemple le cortex pouvait se déformer rapidement, à ce moment-là, le terme de tension corticale serait en fait égal à la contractilité et serait isotrope. Or, on observe une anisotropie, donc on en déduit que le terme de viscosité ne peut pas être négligé. Par ailleurs, les auteurs observent qu'il n'existe pas de gradient de tension donc parallèle, comme on peut le voir ici, donc les flèches antéro-postérieures, d'accord ? Donc il semble que le terme de friction, lui, puisse être négligé dans ces conditions expérimentales. Donc les auteurs ont conclu que la viscosité domine largement sur le phénomène de friction, en tout cas dans ce système, c'est loin d'être une condition générale, même d'autres études montrent que dans d'autres circonstances, c'est l'inverse qui peut se produire. Et les auteurs, donc, maintenant, essayent de déterminer la longueur hydrodynamique définie comme le rapport de cette viscosité sur la friction dans le réseau. Et pour cela, en fait, ils mesurent se référant au modèle, il mesure la distribution de myosine 2, donc représentée en noir, et le gradient de vélocité, de vitesse observée. Et en fait, ils essayent de trouver les paramètres qui permettent, d'après le modèle, de fitter ces deux mesures et trouvent donc une longueur hydrodynamique de l'ordre de 14 microns. 14 microns, c'est en gros à peu près un tiers de la longueur de l'embryon qui est de l'ordre de grandeur de 50 microns. Donc finalement, du point de vue qualitatif, retenez cette notion suivante. Si jamais les frictions dominent sur le terme de viscosité, à ce moment-là, on peut avoir une déformation locale, mais elle ne peut pas se propager à distance, et donc on ne peut pas générer d'écoulement à grande distance dans l'embryon. Si en revanche, la viscosité interne domine sur la friction, à ce moment-là, une déformation locale, elle, en vertu d'une longueur hydrodynamique plus grande, peut se propager à distance et générer un gradient, un écoulement sur des plus grandes distances. Donc on voit bien que dans ce cas particulier, le système est en fait réglé d'une certaine manière pour, dans les paramètres de propriété du réseau, pour faire dominer les propriétés de viscosité par rapport au terme de friction, et dont la conséquence est un écoulement sur une certaine longueur caractéristique. Mais bien sûr, les cellules peuvent potentiellement modifier les paramètres internes du réseau d'actomyosine pour modifier ces longueurs hydrodynamiques et générer des écoulements d'une longueur différente. Voilà, donc je voulais citer cet article pour au moins vous donner l'intuition en fait, des paramètres qui peuvent être contrôlés à un certain niveau dans la cellule, nous allons voir comment, pour générer des propriétés macroscopiques dynamiques du réseau, comme les propriétés d'écoulement, qui, comme on l'a vu, en fait, sont importantes non seulement, en voyant ici, pour polariser une cellule, mais également, dans d'autres cas, pour réguler la cytokinèse donc pendant la division cellulaire, également les propriétés de motilité cellulaire, lesquelles dépendent en grande partie aussi d'un écoulement polarisé du réseau d'actomyosine, en particulier dans la migration de cellules dites améboïdes, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas d'adhésion à un substrat type intégrine. Voilà. Donc il y a toute une littérature vaste, motilité cellulaire, division cellulaire, polarité cellulaire et d'autres choses encore, très très larges, très ubiquitaires, qui en fait dépendent des réseaux d'actomyosine et des propriétés dynamiques émergentes, des propriétés mécaniques de ce réseau. Donc maintenant, il s'agit de, après cette description continue, en un sens macroscopique, essayons et modélisons le réseau comme un fluide actif ayant des propriétés donc, remarquables, essayons de comprendre comment ces propriétés émergent des propriétés des molécules qui la composent. Et nous allons donc successivement voir les forces générées par les moteurs moléculaires pour essayer après de comprendre comment des interactions entre ces moteurs et les filaments d'actine émergent, ces forces de tension contractiles dans le réseau. Donc les moteurs moléculaires sont une famille très large. Je vais à la fois définir les propriétés propres au réseau d'actomyosine tel que nous le décrivons, et en particulier le moteur myosine 2, mais voir des propriétés beaucoup plus générales des moteurs de type myosine. Les propriétés générales des moteurs, à quelques exceptions près, elles qu'il s'agit de complexes hétéroexamériques comprenant deux chaînes lourdes, deux chaînes légères essentielles dites essentielles et deux chaînes légères dites régulatrices qui forment donc un dimère représenté ici. Nous allons revoir la structure plus en détail de la tête en particulier et de la jonction avec la queue de cette myosine. Le point que je voulais souligner ici est qu'il existe une interconversion entre une forme globulaire décrite en particulier par le fait qu'elle a une conformation plus globulaire, caractérisée, quantifiée, qui peut être modifiée par des phosphorylations, par toute une série de molécules régulatrices, dont certaines mentionnées ici. Et cette phosphorylation des chaînes régulatrices, nous allons voir comment, permet de convertir un moteur moléculaire qui est essentiellement non processif, chez la myosine 2 en tout cas, en un moteur multimoléculaire, formant un mini-filament qui a des propriétés collectives extrêmement processives. Ces mini-filaments de myosine 2 ont une stoichiométrie qui dépend d'un moteur à l'autre, au sens d'une espèce à l'autre, et voici l'ordre de grandeur de la composition de ces mini-filaments de myosine 2, entre 14 et 30 moteurs de myosine 2. Retenons à ce stade l'idée d'une interconversion entre un moteur non processif et un complexe multimérique extrêmement processif. Et nous allons voir comment en fait, cela est régulé. Alors, de façon plus fine, la structure de ces moteurs moléculaires est connu. On reconnaît ici dans ce qu'on appelle le domaine moteur à la fois un domaine de liaison à l'actine, extrêmement important, et un domaine de liaison à l'ATP qui est également absolument central. Suit en fait une région qui apporte un lien, enfin un bras de levier comme nous allons voir, qui en fait est directement en liaison avec la queue de la myosine donc lourde. Et c'est dans cette région-là que se lient les chaînes régulatrices, légères régulatrices et les chaînes essentielles. Voilà. Donc le point que je voulais souligner est que l'ATP, la liaison à l'ATP, a une propriété de désassembler en fait les mini-filaments d'actine. On peut s'en convaincre en regardant ici la purification d'un mini-filament de myosine 2 tel qu'il s'observe en microscopie électronique. Donc on voit ici les domaines globulaires et en fait l'organisation antiparallèle des chaînes lourdes, un peu comme on peut le voir sur ce diagramme. En présence d'ATP, la structure se dissocie, on voit en fait des moteurs qui sont dans la configuration globulaire, comme je l'ai souligné tout à l'heure. En revanche, lorsque l'on présente maintenant une phosphorylation de cette chaîne régulatrice, on voit que l'on rentre en compétition avec l'effet de déstabilisation de l'ATP. Et donc la phosphorylation de la chaîne régulatrice de la myosine 2 a deux propriétés. Tout d'abord, elle inhibe l'effet déstabilisant de l'ATP, d'accord, en induisant l'hydrolyse de l'ATP. Et par ailleurs, elle stabilise la conformation de myosine 2 ouverte, c'est-à-dire celle qui n'est typiquement pas dans cette configuration. Donc il y a deux effets différents, un effet structural et un effet d'hydrolyse de l'ATP qui en fait inhibe l'effet déstabilisant de l'ATP. Je vous réfère ici en particulier, j'aurai plusieurs occasions de le faire, Jim Sellers, c'est le grand spécialiste des myosines dans le monde, c'est une personne qui est vraiment la référence. Je signerai en particulier plusieurs revues et des articles venant de son équipe, entre autres. Donc j'aimerais en fait m'arrêter un tout petit peu sur ce qui avère être complexe, mais que je vais essayer de simplifier pour en extraire en fait les notions les plus centrales dans le cycle cinétique de la myosine qui est induit par l'hydrolyse, entre autres, de l'ATP. Donc la myosine, en fait, cycle entre d'un côté un état lié à l'ATP, d'accord, qui en fait induit une dissociation du moteur de l'actine, d'accord, et un état lié à l'ADP plus le phosphate inorganique, d'accord, qui lui est lié à l'actine. Donc en fait, on voit ici représenté en bleu, donc ici en rose, vous avez les filaments d'actine, et tout ce qui est en bleu, avec les parties vertes ici, c'est la tête du moteur moléculaire. Et regardez qu'il y a deux parties dans le diagramme, une partie ici, où en fait les couleurs, il n'y a pas de couleur dans la tête de myosine 2, c'est l'état en fait dissocié ou de faible affinité d'association avec l'actine, et un état dans lequel la couleur bleue augmente, qui en fait représente l'augmentation de l'affinité de liaison à l'actine. D'accord ? Et ceci dépend en fait, du cycle de l'ATP. Alors, on peut voir le cycle comme suit. Tout d'abord, il existe une forme non liée au nucléotide dans lequel le moteur est très fortement lié à l'actine. D'accord ? Il y a une étape de liaison de l'ATP, d'accord, qui dissocie le moteur moléculaire de l'actine. D'accord. L'hydrolyse de l'ATP donc, permet ensuite, dans l'état détaché de l'actine, qui lui permet un changement de conformation qu'on appelle le recovery stroke, c'est-à-dire le mouvement en fait, inverse de power stroke, qui est en fait la course en fait, motrice du moteur. D'accord. On est en analogie du piston dans un moteur mécanique. Le point suivant central est que donc le produit d'hydrolyse, la liaison à l'ADP plus le phosphate inorganique, en fait, est d'abord dans un état de faible affinité avec l'actine et qui va augmenter par la dissociation séquentielle du phosphate inorganique puis de l'ADP. D'accord ? Et l'élément central est que la dissociation de l'ADP et du phosphate inorganique et l'énergie libre qui est consommée dans cette étape permet, nous allons revoir cela tout à l'heure, un changement conformationnel dans le moteur moléculaire qui permet en fait le power stroke, c'est-à-dire la déformation qui induit en fait une force dans le moteur. Et donc, on voit donc toute une série séquentielle de consommation d'énergie libre liée à la liaison, l'hydrolyse, puis la dissociation de l'ADP et du phosphate inorganique. Donc trois étapes différentes, ce n'est pas simplement l'hydrolyse d'ATP, c'est ces trois étapes qui en fait ont un couplage thermodynamique en termes de déformation moléculaire et de production d'énergie mécanique. Et la caractéristique dans ce cycle, hein, c'est que donc ces différentes étapes en fait brisent le bilan détaillé des interactions moléculaires et qui donc permet donc cette évolution cyclique de ces étapes cinétiques du moteur moléculaire. Donc, comme je le soulignais, retenez le fait important que la consommation d'énergie libre, en fait, est associée à trois étapes essentielles du cycle de l'ATP, la liaison à l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP et la dissociation de l'ADP du phosphate inorganique. En particulier, la liaison à l'ATP, en fait, permet de un reset en fait, du cycle en permettant d'échapper à l'étape dite de rigor mortis, c'est-à-dire en fait, du moteur très fortement lié au filament d'actine et qui est dans un état bloqué. Donc la liaison à l'ATP permet de repartir sur un nouveau cycle en dissociant l'actine de moteur du filament d'actine. Par ailleurs, la dissociation séquentielle de l'ADP et du phosphate inorganique a deux effets. Le premier central est qu'un changement très subtil dans la conformation de la tête du domaine est transmise de façon allostérique et amplifiée par le bras de levier, donc cette région en fait, de jonction qui est située ici en bleu et vert, et qui cause en fait ce power stroke, c'est-à-dire cette course en fait, génératrice de force dans le moteur. Le deuxième point est que cette dissociation séquentielle du phosphate inorganique puis de l'ADP en fait, induit une augmentation séquentielle de l'affinité du moteur pour les filaments d'actine et donc augmente la génération de l'état de générateur de force dans le moteur moléculaire. Et le troisième point, donc, c'est que l'hydrolyse de l'ATP est associée à cette phase opposée au power stroke, le recovery stroke, qui permet en fait, de repartir dans la configuration initiale. On voit bien que dans cette description, on peut voir que le moteur moléculaire peut être réglé cinétiquement, d'accord, en régulant la vitesse de transition entre ces différentes étapes, et qu'en particulier, on peut définir un paramètre, le duty ratio, ou je ne sais pas comment le traduire, en fait, qui définit très précisément la fraction du cycle dans lequel le moteur est en fait lié au filament d'actine. D'accord ? Et donc, c'est en un certain sens la fraction du cycle qui est génératrice de force. Alors, nous voyons ici, dans une revue de James Pooditch, un des grands spécialistes des moteurs, cette phase importante qui est ce bras de levier, hein, qui résulte en fait des changements de conformation dans la tête liés à la dissociation, à l'hydrolyse d'ATP et relargage du phosphate inorganique et de l'ADP, dans lesquels on voit en fait ce basculement en fait du bras qui, chez la myosine 2, est de l'ordre de la dizaine de nanomètres, et que l'on peut voir ici. Les forces générées par tête sont dans l'ordre de grandeur entre 2 et 5 piconewtons, d'accord ? Et on voit, suivant les types de moteurs moléculaires, donc myosine 2, 10 nanomètres, hein, pour cette déformation, alors que chez d'autres moteurs comme myosine 5, l'ordre de 20 nanomètres ou 30 nanomètres, qui dépend, bien sûr, de l'angle en fait du basculement du bras, mais également de la longueur en fait de cette région, hein, qui peut être plus ou moins grande, court chez myosine 2 et beaucoup plus grande chez d'autres moteurs. Donc il existe différentes façons de réguler en fait cette propriété de déformation du moteur lors du stroke. Alors, il existe des analyses assez remarquables qui, avec l'AFM, Atomic Force Microscopy, à grande vitesse, a permis, en tout cas dans le cas de myosine 5, de visualiser en fait, ce que je vous ai montré. Donc, il s'agit d'un moteur en fait, qui est différent de myosine 2, en ce sens qu'il est bipolaire, contient, en tout cas, deux têtes qui peuvent marcher, comme on peut le voir ici, donc cette structure en V. Vous avez ici une représentation schématique des étapes, et on voyait ici un film qui montre donc cette espèce de V, en fait, alors les étapes sont extrêmement rapides, mais vous avez ici le dessin, en ce sens que le détachement postérieur en fait induit un basculement où le moteur en fait repasse en avant. Et donc dans ce moteur moléculaire, les auteurs peuvent décrire les étapes avec un grand détail. Et en particulier, la propriété remarquable est que le cycle de l'ATP dans le moteur, dans la partie antérieure et postérieure, sont couplés. On parle de gated motors pour cette raison-là. Les phases d'hydrolyse, dissociation, etc. ne sont pas aléatoires, mais coordonnées les unes aux autres et garantissent une grande processivité du moteur. Donc on peut visualiser ce processus, en tout cas dans certains cas. Je veux m'arrêter un temps sur le duty ratio de myosine, parce qu'en fait, c'est la propriété centrale qui permet de comprendre comment sont régulés ces moteurs moléculaires et quel est l'impact sur la contractilité et sur la tension corticale. Donc, je rappelle donc, la définition du duty ratio, c'est le temps du cycle que le moteur passe associé au filament d'actine, qui est donc le temps où il peut générer une force. Ce duty ratio, en fait, dépend considérablement d'une myosine à l'autre. Et pour vous donner deux exemples extrêmes, dans un cas de faible duty ratio, je prends l'exemple des moteurs à contraction, des muscles à contraction très rapide. En fait, ce faible duty ratio permet d'augmenter la vitesse de déplacement des moteurs sur les filaments d'actine. D'accord ? La puissance par moteur est faible, mais ceci est compensé par la densité extrêmement forte des moteurs dans ces fibres musculaires, comme vous le connaissez. Pensez par exemple à des moteurs qui permettent les battements très rapides des ailes d'une mouche, dont la fréquence est assez remarquable. Mais vous voyez qu'on peut, dans certaines configurations, souhaiter en fait un faible duty ratio et qui va avoir comme corollaire une organisation particulière des moteurs, notamment leur très grande densité. À l'autre extrême, on peut avoir un duty ratio qui est très important, jusqu'à à peu près 0,9, et qui est représenté par l'exemple caractéristique de myosine 5, dont je vous ai montré un film dans la diapositive précédente, et qui a pour conséquence une très grande processivité du moteur, qui a, donc, comme je le disais, deux têtes qui sont coordonnées l'une à l'autre et qui permet le transport de cargo dans la cellule. Le point important, c'est que quand un moteur est en état lié à l'ATP, donc dissocié de l'actine, l'autre tête, en fait, est toujours fortement liée au filament d'actine en raison du fort duty ratio et qui permet donc une grande processivité. Le moteur ne se détache pas fréquemment. Le point important souligné en rouge est que la cinétique de dissociation de l'ADP, en fait, c'est le paramètre qui est en fait l'élément de tuning du rapport cyclique. Je ne sais pas si c'est la bonne définition de duty ratio. C'est-à-dire que si jamais le facteur limitant c'est la dissociation du phosphate inorganique, alors à ce moment-là le duty ratio va être faible, alors qu'en revanche si la dissociation de l'ADP qui est consécutive, postérieure en tout cas à la dissociation du phosphate inorganique, c'est elle qui est le facteur limitant, à ce moment-là on va avoir un duty ratio qui va être important. Donc en fait tout paramètre qui va réguler, qui va faire que le phosphate inorganique est l'élément limitant versus la dissociation de l'ADP, va avoir un impact direct sur la cinétique de dissociation de l'ADP et donc sur le duty ratio. Voyons comment cela peut être régulé. Il existe de multiples façons de régulation. Et tout d'abord, il existe, notamment chez les mammifères, différentes isoformes de myosine. Il en existe trois, 2A, 2B et 2C. Dans le cas de 2A, 2B, en fait, les duty ratios ont été mesurés. Pour 2B, il est plus important que pour 2A. Je cite ici une référence qui montre comment ce genre de paramètres dans le labo de Jim Sellers a été mesuré. L'autre point important à voir, c'est que le duty ratio, en fait, évolue de façon inverse avec le nombre de moteurs dans le complexe. Comme je le soulignais tout à l'heure, en fait, des mini-filaments plus petits vont avoir un duty ratio plus important. Prenons le cas extrême de simplement deux têtes qui marchent de façon coordonnée le long d'un filament d'actine, comme myosine 5, très fort duty ratio. Des mini-filaments qui vont avoir une stoichiométrie plus faible par rapport à d'autres qui comprennent beaucoup de moteurs, une trentaine de moteurs, vont avoir potentiellement des duty ratios qui vont être différents au sens où on va compenser un faible duty ratio par une plus forte densité de moteurs moléculaires, qui fait que statistiquement, le nombre de moteurs se liant par unité de surface ou de densité d'actine sur les filaments d'actine va être plus importante. Alors, on voit ici des ordres de grandeur pour myosine 2, dans lequel le duty ratio évolue entre 0,1 et 0,35. Il est donc relativement faible, d'accord, avec des minifilaments de l'ordre de 14 à 30 moteurs. En revanche, dans le cas des muscles lisses, d'accord, myosine 2, donc musculaire, a un duty ratio plus faible, de l'ordre de 0,04. Et là, on a des centaines de moteurs qui sont en fait organisés dans des filaments épais de myosine. Voilà. Donc ici, illustre de façon avec des chiffres approximatifs hein, cette notion que j'ai soulignée tout à l'heure. Le point aussi important, en se rappelant le rôle central de la dissociation de l'ADP dans la régulation du duty ratio, est que en fait, les déformations en fait, du pontage, enfin, des liens entre le myosine et les filaments d'actine, peut en fait ralentir la dissociation de l'ADP et ainsi augmenter le duty ratio. Donc, en d'autres termes, il peut y avoir une augmentation du duty ratio, donc de la génération de force par le moteur, en fonction des forces auxquelles le moteur lui-même est soumis. Voilà. Donc ici, on a représenté de façon schématique, dans la différente gamme de moteurs, les différentes classes de comportement qui évoluent le long de deux gradients. Un gradient donc, de duty ratio, hein, de rapport cyclique, qui est plus important dans cette partie à droite, et qui concerne les moteurs très processifs comme Usine 5, 7, 6 et 7, d'accord, qui sont les moteurs très processifs transporteurs de cargo. À l'autre extrémité, des moteurs musculaires qui, sont, en fait, qui se déplacent très rapidement et compensent un faible duty ratio par une grande densité d'organisation, notamment dans les fibres musculaires. Le rapport inverse, le gradient inverse du duty ratio, c'est en fait le couplage thermodynamique, qui va être donc beaucoup plus important dans ce cas-là. D'accord ? Et il est intéressant de voir que myosine 2, qui nous concerne, non musculaire, se situe en fait dans une valeur du duty ratio qui est intermédiaire, hein, que l'on voit ici. Alors ici, dans cette revue, on voit donc différentes classes de myosine, représentées ici, les myosines 1, myosine 2, etc., et les différents comportements tels que je les ai représentés dans ce diagramme ici, hein, avec les moteurs qui se déplacent rapidement et à l'autre extrémité ceux qui sont très processifs. Et on voit en fait que différentes myosines 2, représentées par ces M2 dans différentes espèces, hein, sont donc dans des valeurs de duty ratio qui les situent dans la partie gauche globalement de ce diagramme. Mais je voudrais souligner le fait que potentiellement ce duty ratio peut être déplacé, augmenté, et donc cette flèche représente ce déplacement vers la droite, en raison, comme conséquence de l'assemblage de minifilaments qui donc augmente le duty ratio. Et pour cela, au moins une raison est que cette structure autonibée du moteur myosine 2 dans l'état non phosphorylé en fait réduit en fait la dissociation du phosphate inorganique d'un ordre de grandeur qui peut être d'un facteur 1000. Et donc à ce moment-là, la dissociation du phosphate inorganique est rate limiting, ce qui donc induit un duty ratio plus faible. Et donc la phosphorylation modifiant donc la fréquence dans cet état-là a un impact direct sur le duty ratio. Et le deuxième élément est que la conséquence aussi de cette configuration ouverte, c'est qu'elle permet la formation de mini-filaments et qui permet de produire un duty ratio collectif dans la structure supramoléculaire. Donc il faut considérer à la fois les propriétés du moteur telles que nous les avons vues et le fait que le moteur peut s'associer en mini-filaments dont la densité varie, qui donne des propriétés collectives moyennées sur le complexe qui est donc l'unité importante à avoir en tête. Alors, des expériences remarquables ont pu, notamment avec des pinces optiques, étudier toutes ces propriétés dont j'ai parlé des moteurs moléculaires, mesurer le duty ratio, en particulier mesurer le déplacement du moteur sur les filaments d'actine, donc déterminer la taille en fait du power stroke, de la course en fait du moteur, le nombre d'étapes avant détachement, c'est-à-dire la processivité, la quantité de force générée par les moteurs, hein, de l'ordre de 2 à 5 piconewtons, et puis les propriétés cinétiques des propriétés mécano-enzymatiques du cycle de myosine 2. Donc je soulignais le fait qu'il y a, dans un certain nombre de cas, étudié une sensibilité du moteur aux forces auxquelles il est soumis, et en particulier dans une étude que je cite ici, les auteurs ont pu montrer que dans des conditions de forces résistives qui sont de l'ordre de 0,5 piconewton, il y a donc un ralentissement de la dissociation de l'ADP pour le moteur myosine 1B, qui donc devient limitante et qui donc augmente le rapport cyclique du moteur. En revanche, et quand la force est encore plus importante, supérieure à 1 piconewton, en fait, ça bloque complètement le détachement de l'actine qui peut rester donc plusieurs secondes, voire minutes, lié au filament d'actine. Donc en fait, potentiellement, et je souligne le fait que in vitro, ce phénomène a été bien étudié, l'impact in vivo ne l'a pas été, et c'est sans doute quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter l'an prochain. Donc voilà qui clôt cette étude que j'ai voulu détailler en fait, des propriétés du moteur moléculaire. Donc on voit qu'il est caractérisé par un cycle induit par l'ATP. Et la grandeur principale que l'on doit avoir à l'esprit est ce rapport cyclique, duty ratio, qui peut être régulé de multiples façons. et qui dépend très fortement en fait, du taux de dissociation de l'ADP. Donc maintenant, voyons comment le moteur, comment le réseau d'actomyosine, donc qui émerge des interactions entre le moteur moléculaire et les filaments d'actine, génère cette fameuse tension corticale. Ne vous laissez pas distraire par ce petit film que néanmoins je voulais mettre pour vous distraire. Donc je vous propose de procéder par étapes et commencer par un cas classique qui est en fait la contraction musculaire dans cette structure que l'on peut voir ici, hein, en fait, du sarcomère. Donc finalement, les filaments d'actine, donc, comme vous le savez, peuvent être polymérisés aux deux extrémités, mais principalement au bout barbé, parfois nommé ou plus des filaments d'actine. On voit maintenant ces mini-filaments de myosine 2 dont la stoichiométrie varie, nous le voyons ici avec une grande quantité de moteurs, qui se lient donc aux filaments d'actine. Le moteur myosine 2 se déplace vers l'extrémité barbée des filaments d'actine. Et donc, on peut avoir deux configurations. Un cas de contraction des filaments d'actine représenté ici, ou un cas d'extension, et qui dépend en fait de la position du moteur par rapport au milieu de ces filaments d'actine. Lorsqu'il vient juste de capturer des extrémités pointues des filaments d'actine, le déplacement vers l'extrémité barbée va générer donc une contraction locale avec une vitesse V et une force générée F comme émergeant des propriétés collectives du moteur liées aux filaments d'actine. Vous pouvez déjà avoir l'intuition que tout ce dont j'ai parlé au niveau moléculaire, le nombre et des moteurs engagés dans et le duty ratio des moteurs va avoir un impact direct sur cette vélocité et l'effort généré localement. Donc ça, c'est une idée de contraction pour simplement deux filaments et un mini-filament de myosine. Mais dans d'autres configurations, notamment celle-ci, on peut voir qu'il va y avoir une extension des filaments d'actine. Donc on voit bien tout de suite que ce qui fait que le réseau collectivement va générer la contraction n'est pas tout à fait trivial. En tout cas, dans le cas du sarcomère, l'organisation extrêmement rigoureuse des filaments d'actine et du positionnement des moteurs ainsi que des crosslinkers, en fait, résout une partie du problème. En ce sens que on voit donc ces filaments de myosine, d'actine en rouge, tous organisés de façon très précise, on le voit en microscopie électronique, les filaments de myosine 2, donc directement dans les parties pointues, qui se déplacent vers les extrémités barbées et qui donc génèrent localement une contraction de cette petite unité et qui collectivement génère la contraction de l'ensemble du réseau dans toute la longueur. Voilà. Donc finalement ici, dans le cas d'une contraction ordonnée, le phénomène semble assez simple, puisque c'est l'organisation globale des filaments de myosine 2 et des filaments d'actine qui permet de contourner le problème des contributions inverses, des contractions et des extensions. Et maintenant, dans un cas, alors je voulais signaler bien sûr le cas de la contraction musculaire, mais des études montraient que dans un certain cas, il est possible que l'organisation des filaments de myosine et d'actine soit plus ordonnée qu'on a voulu le penser. Je cite en particulier ce travail dans l'organe de Corti, donc qui est dans l'oreille des mammifères, dans lesquels il y a des cellules épithéliales, donc vous voyez ici la section apicale, et dans cette section apicale, la myosine 2C, une des trois isoformes de la myosine 2, forme cette espèce de structure très régulièrement ordonnée en vert, ponctuée par l'organisation donc des filaments d'actine en rouge, et on voit du violet parce qu'il y a des crosslinkers, donc alpha-actinine, qui est situé de façon alternée avec le moteur myosine 2. Et on voit ici donc, les intensités de cette organisation. Les auteurs donc, proposent de façon schématique qu'aux interfaces cellulaires aux jonctions, il y a une organisation en fait quasi sarcomérique, très ordonnée, des moteurs moléculaires et des filaments d'actine qui donc pourraient générer une tension aux interfaces cellulaires comme finalement assez analogue de ce qui se passerait dans un muscle, bien qu'il soit de taille beaucoup plus fine que dans un muscle naturellement. Mais le point finalement peut-être le plus intéressant, parce qu'il soulève un certain nombre de questions, est le cas des réseaux désordonnés d'actine qui est en fait le cas le plus fréquent. Donc, considérant tout d'abord le cas où il n'y a pas d'accumulation de stress interne dans le réseau, on a finalement des filaments d'actine, des moteurs moléculaires, lesquels vont se déplacer vers les extrémités barbées, et en fonction de l'organisation parallèle, antiparallèle des filaments d'actine en distribution, finalement, il va y avoir un effet, on va dire, de fluidisation du réseau, il ne va pas avoir de contraction qui va vraiment être générée dans le réseau. comme on peut le voir sur ce diagramme. Il n'y a pas de contraction nette dans le réseau. En revanche, il existe au moins deux cas dans lesquels on peut comprendre comment la tension, en fait, la contraction globale en fait, émerge des interactions entre moteur et filament d'actine. Tout d'abord celui caractérisé d'abord par Tom Pollard et maintenant accepté comme une possibilité de l'émergence de contraction dans un réseau, qui est celui dans lequel il existe des espèces de nœuds ou des points focaux dans lesquels les formines qui se lient à l'extrémité barbée des filaments d'actine, donc ces structures en grise ici, donc liées aux extrémités barbées, sont des points où lesquels les moteurs moléculaires de myosine 2 peuvent se situer, qui peuvent en fait s'associer aux extrémités pointues des filaments d'actine, comme ici, et qui, en fait, se déplaçant vers l'extrémité barbée, vont rapprocher les nœuds les uns des autres. Ça a été caractérisé tout d'abord dans le cas de la levure S-pombée, qui, donc, lors notamment de l'anneau de cytokinèse, on voit des petits nœuds qui s'associent et une contraction émerger de ce type d'association. Donc, en fait, voilà un cas classique d'une organisation quasi-sarcomérique, mais qui n'est pas aussi ordonnée que dans le muscle, évidemment. Le cas sans doute plus fréquent, d'une contraction en fait, qui émerge de l'existence centrale de deux propriétés, qui est l'existence de crosslinker, dont les interactions dynamiques, alors ces crosslinkers sont représentés en bleu, et les interactions dynamiques de ces crosslinkers en grande densité permet en fait un temps d'association entre les filaments d'actine et qui, par l'intermédiaire des forces contractiles, permet de générer du stress. Et le point central est le fait que les filaments d'actine, en réponse aux forces motrices, donc des moteurs moléculaires représentés en vert, peuvent en fait adopter des flambées, en tout cas se déformer, on le voit ici. Et donc la conjonction de l'association au crosslinker et des courbures de filaments d'actine permet en fait l'accumulation de stress interne en réponse à l'activation des moteurs moléculaires. Le stress n'est pas relâché immédiatement et donc permet l'accumulation de stress. Alors, voyons maintenant dans un certain nombre de configurations dans les cellules, notamment par des méthodes plus récentes super résolutives qui permettent de caractériser la distribution de moteurs myosine 2. Alors on voit ici dans une cellule, une sorte de fibroblaste, qu'en fait ce qui était initialement caractérisé comme une zone finalement semi-ordonnée de mini-filaments de myosine, en fait on voit en super résolution une organisation en stack qui se voit très très bien ici lorsque l'on voit les mini-filaments de myosine et qui s'organisent. Alors soit on peut voir des mini-filaments isolés, d'accord, l'organisation bipolaire, ou alors qui s'accumulent, qui s'empilent les uns par rapport aux autres, comme on peut le voir schématisé ici, et qui donc définit des structures semi-ordonnées dans ce réseau d'actines. Donc déjà dans le cas des contractions dans les réseaux désordonnés d'actines, il faut s'entendre par ce qu'on entend par ce qu'on appelle désordonné, et en particulier, vous voyez ici que les mini-filaments de myosine peuvent avoir une organisation globalement selon des axes privilégiés dans la cellule. Et donc, en ayant à l'esprit ce phénomène-là, on peut voir qu'il y a une organisation globale dans le réseau d'actine qui peut générer en fait une orientation de la contractilité. Mais maintenant, les réseaux peuvent être beaucoup plus effectivement désordonnés avec une organisation beaucoup plus isotrope. Et je veux souligner dans cet exemple donc, que nous avons vu tout à l'heure de l'embryon précoce de Caenorhabditis elegans, où on voit ici en vert les filaments d'actine et la formation du front de cytokinèse, le moteur moléculaire myosine 2 en rouge. On voit au début un réseau qui forme un maillage très désordonné. En zoomant sur une partie, on pourrait se représenter ce genre de configuration dans lesquelles les formines nucléateurs aux extrémités barbées d'actine génèrent de nouveaux filaments, d'accord ? Et qui peuvent être reliés les uns aux autres par des moteurs moléculaires qui généreraient, selon ce qu'on a vu tout à l'heure, une contraction locale en déplacement les nœuds les uns par rapport aux autres. Donc c'était le deuxième exemple de contraction comme résultant en fait de l'activité à la fois de nucléateurs aux extrémités barbées et de moteurs moléculaires. Et l'on voit que l'élément central pour voir l'émergence d'une contractilité dans le réseau, c'est en fait la densité locale de filaments antiparallèles versus parallèles. Comme les filaments d'actine ont une polarité intrinsèque, une forte densité de filaments antiparallèles peut générer en fait une contractilité locale. Inverse, une faible densité de filaments antiparallèles en fait aura l'effet inverse. Donc on a ici dans le cas d'un réseau isotrope désordonné isotrope, donc une contractilité émergeant de l'association de filaments antiparallèles, mais également dans une structure maintenant beaucoup plus polarisée, comme une fibre de stress, dans lesquelles les filaments d'actine antiparallèles peuvent, selon un axe privilégié, induire une tension selon une direction, selon un axe particulier. Donc finalement, une question sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, mais qui vient immédiatement à l'esprit, c'est quels sont les paramètres qui régulent, modifient l'organisation des filaments d'actine, la densité de filaments antiparallèles, et notamment la possibilité que les moteurs moléculaires eux-mêmes modifient cette organisation par un processus de rétroaction qui peut être étudié. Je voulais vous donner un autre exemple de réseau finalement isotrope, désordonné, jouant un rôle majeur dans la contractilité, qui est en fait une cellule épithéliale dans son cortex très apical. On voit ici en vert, alors vous pouvez peut-être deviner quelques filaments d'actine. On voit également ces structures un peu comme ces points qui, en super résolution, en fait, se caractérisent comme de petits astères, vraisemblablement, bien qu'il n'y ait pas de certitude, formant en fait des astères nucléés par des formines. Et en violet, les moteurs moléculaires en fait, ont des propriétés de contraction qui déforment ce réseau et ont un impact sur la déformation cellulaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Mais je voulais illustrer ici en quoi ces réseaux isotropes contractiles en fait, émergent l'interaction entre filaments d'actine et moteurs. Alors on peut voir en microscopie électronique dans les situations fixées ces réseaux anisotropes qui sont, je le souligne, les moins compris. La contractilité des réseaux isotropes, réseaux isotropes sont les moins compris. Lorsque l'on regarde maintenant ces réseaux ici, des filaments d'actine, on voit ici en microscopie électronique la localisation des moteurs par des billes d'or et on peut voir ici donc, ces moteurs moléculaires marqués par des billes d'or agissant sur les filaments d'actine. Donc, ce que je vous ai représenté par les diagrammes n'est pas une vue de l'esprit, il peut se voir directement dans les techniques de microscopie électronique. Je voulais maintenant m'arrêter sur un élément extrêmement intéressant qui est en fait l'impact de la taille des filaments d'actine sur le taux de contraction d'un réseau. Et on va considérer deux cas de figure, celui d'une organisation sarcomérique, qui on l'a vu existe, et ceux d'une auto-organisation dans les réseaux moins ordonnés d'actine. Et quand je vous ai parlé de la régulation du moteur, de l'assemblage des mini-filaments, de la régulation du duty ratio, d'accord, disons que les mini-filaments peuvent avoir des tailles différentes. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Et on peut voir donc deux cas de figure, à droite des filaments comprenant beaucoup de moteurs et à gauche des filaments comprenant beaucoup moins de moteurs. Dans le cas d'une contraction sarcomérique, d'accord, le taux de contraction, d'accord, est plus important lorsque les filaments sont plus petits, d'accord, parce qu'il est égal en fait au rapport de la vitesse du moteur sur le réseau d'actine divisé par la longueur du filament. Et ici, lorsque on a ici la distribution des crosslinkers hein, en bleu, on voit bien que ce rapport est plus faible ici quand les mini-filaments sont plus grands. Donc, dans une organisation sarcomérique, les mini-filaments plus petits induisent un taux de contraction plus faible, plus important. En revanche, dans le cas d'un réseau désordonné qui s'auto-organise, dans lesquels la contraction provient de l'existence de crosslinkers et des déformations des filaments d'actine en réponse au stress généré par l'activité motrice, donc du moteur myosine 2, on voit que lorsque les mini-filaments sont plus importants, ils permettent localement l'accumulation d'une plus grande force qui déforme les filaments d'actine et donc peut générer donc, une déformation du réseau. Donc dans ce cas-là, le taux de déformation du réseau sera plus important lorsque les mini-filaments seront plus grands. Alors, j'ai mis une petite astérix sur la taille du mini-filament. Entendons-le de multiples façons. Et j'entends par là tous les processus qui peuvent réguler soit, bien sûr, le nombre de moteurs moléculaires, comme ce diagramme, ce schéma le montre, mais également choses qui peuvent réguler, sinon le nombre de moteurs moléculaires, en tout cas leur activité. Et en particulier, ce paramètre de rapport cyclique, de duty ratio, qui peut en fait être régulé en moyenne par millifilament, et qui va dépendre non seulement des isoformes, mais même il y a des données qui montrent que dans un minifilament, deux isoformes différentes peuvent coexister. 2A, 2B chez les mammifères, qui ont des duty ratios différents, peuvent coexister dans le même moteur. Il y a donc la possibilité de modifier la stoichiométrie et donc le rapport cyclique collectif du minifilament. Ceci aura le même effet que changer le nombre de moteurs. La phosphorylation des différentes chaînes légères qui va modifier le duty ratio et donc les propriétés collectives du moteur. La charge également exercée sur ces moteurs qui jouera un rôle important sur le duty ratio. Et troisièmement, la fraction de moteurs moléculaires qui peuvent être dans un état actif et notamment la phosphorylation joue un rôle important. Il y avait deux modèles envisagés, le modèle envisagé classiquement pour le rôle de la phosphorylation, c'est que précisément, il changeait le nombre de moteurs de minifilaments qui auraient une stoichiométrie constante. Alors que maintenant, les données vont clairement dans le sens d'une régulation, si ce n'est du nombre de minifilaments à stoichiométrie constante, mais d'une variation en fait, de la stoichiométrie des moteurs en fonction de la phosphorylation. Donc, d'une façon qui est assez conforme à ce que l'on voit ici. Donc, vous voyez une multitude de mécanismes pour réguler la taille des filaments et que l'impact dans des réseaux désordonnés sera très important en termes de taux de contraction du réseau. Les propriétés biophysiques de régulation de la génération de force dans ces réseaux d'actomyosine sont multiples. Je voudrais souligner en particulier le rôle des crosslinkers passifs, dont on voit ici toute une liste des temps d'association-dissociation très rapides. En raison de l'état lié à l'ATP, au phosphate inorganique, qui a une très forte affinité avec l'actine, en fait, les propriétés de duty ratio vont aussi avoir un impact en termes de crosslinker. Les moteurs moléculaires sont des crosslinkers actifs du réseau d'actomyosine, d'accord ? Donc, ils peuvent en eux-mêmes jouer un rôle important pour l'accumulation du stress interne. Ils ne dépendent pas que de l'existence de crosslinkers passifs. La taille des filaments d'actine joue un rôle important, comme on l'a vu, mais également le facteur de couplage à la membrane, qui dépend de ces protéines dont je parlais dans ma deuxième diapositive, les protéines ERM, et qui en fait vont. Alors on voit en fait qu'on peut classifier l'impact de ces différents mécanismes en termes des longueurs caractéristiques de la contractilité. Et lorsque il y a en fait des forces visqueuses liées à l'association entre membrane et filament d'actine, il va y avoir un effet de réduction de la longueur en fait caractéristique de la contractilité dans le réseau. Voilà, ici, on a tout un série d'ordres de grandeur qui ont été mesurés pour les associations-dissociations de crosslinkers. Retenons en fait que ces associations-dissociations sont extrêmement rapides, en tout cas pour les crosslinkers, moins pour les moteurs myosine 2. Et pour les filaments d'actine, il y a des temps de demi-vie qui sont extrêmement variés, mais typiquement de l'ordre de dizaines, vingtaines de secondes. D'accord. On voit ici maintenant, dans différentes études, les ordres de grandeur de la tension corticale que l'on peut mesurer notamment par des expériences de micropipettes utilisant la loi de Laplace et qui permettent de voyez les ordres de grandeur de quelques dizaines à centaines, voire dans d'autres cas plus importants, piconewton par micron. J'aimerais maintenant aborder les paramètres de régulation de la tension corticale. Et on pourrait le faire dans de nombreuses études. J'ai choisi le cas assez simple et bien documenté de la changement de forme cellulaire associée à la division cellulaire. Et j'entends par là non pas la cytokinèse dont j'ai déjà un peu parlé, mais en fait le fait que lors de l'entrée en mitose, la cellule en fait s'arrondit. On le voit dans ce schéma ici. La cellule en interphase est aplatie sur son substrat et lors de l'entrée en mitose, la cellule s'arrondit et qui permet donc la formation du fuseau mitotique. Les auteurs de cette étude mentionnée ici ont utilisé un microscope à force atomique pour mesurer la rigidité en fait, du cortex apical lors de l'entrée en mitose. Et on voit en particulier qu'il y a une augmentation donc, du module élastique, E représenté ici, lors de la division cellulaire par rapport à l'interphase. D'accord ? Et ici, donc une quantification sur un certain nombre d'expériences. Et en particulier, cette protéine dont j'ai parlé, les protéines ERM qui assurent le couplage entre l'actine et la membrane plasmique, sont des régulateurs extrêmement importants de cette élasticité du cortex. Lorsque l'on inhibe, on voit une baisse importante de l'élasticité du cortex d'actomyosine. Donc on voit ici que des protéines qui jouent un rôle important dans l'association membrane-cytosquelette jouent un rôle important déjà dans les propriétés d'élasticité du réseau. Et dans les diapositives suivantes, nous allons voir les mesures de tension corticale. Pour rendre cette étude un peu plus complexe, sans avoir le temps de rentrer dans les détails, soulignons que ces changements de forme dans l'entrée en mitose ne sont pas que dépendantes des propriétés du réseau d'actomyosine, mais également d'une régulation de la pression osmotique. Et je fais référence à cet article très intéressant de Tony Hyman, dans lequel est révélée l'importance, une modification de la pression osmotique, ainsi que sa régulation lors du cycle cellulaire. Donc retenez en fait plutôt une interaction intéressante entre pression hydrostatique, tension corticale dans ce changement de la forme de la cellule. J'aimerais maintenant passer quelques temps sur un article très récent qui vient d'être publié du laboratoire d'Eva Palour en collaboration avec Guillaume Salbreu et Guillaume Charras, et dont le premier auteur est cité ici, et qui étudie d'une façon extrêmement intéressante les propriétés architecture du réseau d'actine. On va voir en particulier que c'est la longueur des filaments d'actine qui joue un rôle important dans la génération de force de tension corticale. Alors, le système expérimental est le suivant. Les cellules, en fait, sont compressées et en utilisant un AFM, ils peuvent mesurer donc des forces exercées par cette cellule sur le cantilever de l'AFM et donc, en fonction de paramètres géométriques, en extraire une tension corticale T. Et les auteurs montrent, dans les cellules là, qu'une cellule en interphase, d'accord, à une tension corticale plus faible qu'une cellule qui entre en mitose. Donc nous avons vu tout à l'heure la mesure de rigidité, d'accord, et ici on voit qu'il y a également une augmentation de la tension corticale lorsqu'une cellule entre en mitose. D'accord. Le fait un peu surprenant est qu'on s'attendrait plus de filaments d'actine, plus de tension corticale, et en fait on voit que l'épaisseur du cortex diminue en même temps que la tension corticale augmente, ce qui semble un fait à première vue un peu paradoxal. Et les auteurs, en fait, approfondissent cette observation paradoxale pour en comprendre le mécanisme. Et tout d'abord, ils ont une approche qui consiste à perturber de façon assez systématique les régulateurs de l'actine, et ils identifient deux classes de régulateurs qui modifient et l'épaisseur du cortex et la tension corticale. Et en particulier, deux régulateurs qui sont négatifs en termes de sur la longueur des filaments d'actine, une protéine CAPZ, en fait, qui est une capping protéine au bout barbé, et donc qui limite la polymérisation au bout barbé des filaments d'actine, et CFL1, cofiline, donc qui est une activité donc, de clivage de filaments d'actine. Dans ces deux mutants, il y a une baisse de la tension corticale, d'accord, et une augmentation relative de l'épaisseur du réseau d'actine. D'accord. Donc, vous souvenez que naturellement, dans l'interphase, on a un amincissement du cortex, une augmentation de la tension. Ici, on a le phénomène inverse dans les conditions perturbatives génétiques où l'on inhibe des régulateurs négatifs de la longueur de filament d'actine. Et à l'inverse, lorsque l'on inhibe un régulateur positif de la longueur de filament d'actine, une formine, on voit maintenant qu'il y a aussi une baisse de tension corticale. Par contre, qu'il y a une baisse de l'épaisseur du cortex. Donc on voit finalement que lorsque l'on épaissit ou amincit trop le cortex, on peut modifier la tension corticale, ce qui est un peu contradictoire, et essayons maintenant d'approfondir cette notion. Donc les auteurs ont recours non pas à une approche continue que j'ai décrit tout à l'heure, mais finalement ici des simulations numériques qui en fait utilisent les ingrédients suivants, des filaments d'actine, des moteurs rigides qui ont des interactions élastiques avec les filaments d'actine, des crosslinkers passifs qui eux-mêmes ont des associations, dissociations et des liaisons élastiques avec tous ces composants, les moteurs qui se déplacent vers les extrémités plus de filaments, une chose tout à fait classique, et en fait le fait que les moteurs qui se déplacent sur les filaments d'actine sont une force de résistance par des frictions liées à l'environnement. Et donc, en assemblant tous ces agents, on peut modéliser un réseau avec des tailles et une épaisseur particulière, avec des conditions au bord périodiques pour les bords XY et en Z, des frontières libres. qui permet donc de voir différentes épaisseurs évoluer ou les implémenter. Et en particulier, lors de simulations numériques, les auteurs voient qu'au cours du temps, il y a une augmentation rapide du cortex et vers une valeur plateau que l'on peut voir très clairement ici. Et en modifiant toute une série de paramètres dans ces simulations, les auteurs voient de façon très claire dans ce diagramme ici qu'il y a un impact donc ici, de la longueur moyenne des filaments sur la tension corticale qui résulte et qui en fait, se mesure en fait, dans le plan du réseau ici. Au sens où filament trop petit, peu de tension, filament trop long, une tension qui est faible, et il existe en fait un maximum de tension générée pour des filaments de longueur intermédiaire. Donc voilà ce qui ressort des simulations numériques. Essayons d'en comprendre maintenant l'origine. Pour cela, les auteurs étudient deux choses. Ils peuvent mesurer le stress lié au moteur lui-même, représenté en vert, qui au cours du, en fonction donc, de la longueur du filament, donc ce stress en fait augmente vers une valeur limite. Et que maintenant, en regardant les propriétés, le stress expérimenté par le réseau lui-même, d'accord, le réseau d'actine, enfin d'actomyosine, en fait, on voit qu'il y a donc toujours cet maximum pour une valeur intermédiaire de longueur de filament d'actine. Et que donc, les propriétés observées pour le réseau dans son ensemble ne proviennent pas en fait des propriétés des moteurs eux-mêmes, mais de l'organisation du réseau d'actine en particulier. Les auteurs, donc, à ce moment-là, étudient la contribution, à la fois les déformations dans le réseau, d'accord, et le stress généré. Alors, aussi bien le stress que les déformations peuvent s'analyser positives ou négatives, et en fait, les déformations, elles, sont toujours symétriques, hein, on peut le voir ici, mais que le stress généré, lui, est observé de façon est extrêmement asymétrique dans les conditions où les filaments d'actine sont faibles, alors qu'il devient beaucoup plus symétrique dans le cas où les déformations ou les filaments d'actine sont beaucoup plus longs. Donc les auteurs en concluent qu'il y a en fait un équilibre entre les contributions entre le degré de connexion entre les filaments d'actine. Quand les filaments sont trop courts, d'accord, la faible connexion entre les filaments d'actine induit en fait un collapse local du réseau qui empêche l'accumulation de la contractilité. Lorsque les filaments sont trop longs, le réseau est trop rigide et donc aussi limite l'accumulation de la contractilité dans le réseau. Et à des longueurs intermédiaires, la connexion entre les éléments du réseau et la déformation du réseau permet l'augmentation de la tension collective dans le réseau d'actomyosine. Donc on voit en fait une contribution assez intéressante de la longueur des filaments qui, en étant régulée, pourrait en fait elle-même moduler, toute chose égale par ailleurs en termes d'activité du moteur myosine 2, l'accumulation de la tension dans un réseau d'actomyosine. Donc j'en arrive au terme ce cours. En rappelant, donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, que notamment dans le cadre de la migration cellulaire, la tension de la membrane joue un rôle très important. Et finalement, on est en droit de s'interroger maintenant sur le rôle de cette tension corticale dans d'autres types de déformations cellulaires, et en particulier dans les cellules épithéliales qui nous ont intéressés. Et donc j'aimerais, pour finir, aborder deux cas dont j'ai déjà parlé, et de finalement, en un sens, revisiter l'impact de l'adhérence cellulaire en considérant maintenant la tension corticale dans ces cellules. Le premier exemple que je choisis de citer est celui des cellules du cône dans la rétine de la drosophile, et que j'avais cité en exemple, finalement, pour presque prouver ou donner droit à Mal Steinberg dans son explication du tri cellulaire. On voit ici, dans les cellules de la rétine, ces cellules du cône, ces quatre cellules, qui exprime N-cadérine, en rouge, en plus de E-cadérine qui est exprimée dans toutes les cellules. Donc c'est quatre cellules au centre, ainsi que les deux cellules périphériques. Et on avait vu que les cellules adoptaient des configurations géométriques qui dépendaient en fait du profil d'expression de ces cadérines. Ici, la configuration sauvage où les angles sont presque plats vers cette flèche violette. Lorsque l'on enlève l'expression de N-cadérine dans cette cellule, les angles se referment et la longueur de cette interface diminue. Donc la longueur des interfaces dépend d'une forte expression des cadérines et les angles qui en résultent en fait, reflètent les modifications de la tension de surface. On voit ici de façon remarquable comment l'expression différentielle des cadérines dicte, prédit la configuration des cellules. Finalement, ce que les auteurs n'avaient pas regardé, c'est de savoir si l'expression différentielle des cadérines modifie l'adhérence ou d'autres paramètres, et comme nous allons voir, en fait, la tension corticale. Et on voit ici en violet maintenant la distribution du moteur myosine 2 comme index potentiel de la tension corticale aux interfaces cellulaires. Et on voit en fait que toutes les interfaces n'ont pas la même densité de myosine 2, et en particulier que l'interface avec l'extérieur de toutes ces cellules du cône a une densité de myosine beaucoup plus importante que les interfaces entre cellules qui expriment N-cadérine, d'accord ? Et qu'en particulier, lorsque l'on modifie l'expression d'N-cadérine, la distribution de myosine 2 est modifiée. Donc finalement, on voit bien qu'il y avait cette espèce de variable cachée, en tout cas qui n'avait pas été observée par les auteurs initiaux de cette étude. C'est en fait la distribution de myosine 2 dans ces cellules. Et l'équipe de Pierre-François Laine et ses collègues a étudié par des expériences d'ablation focale du réseau contractile d'actiomyosine la tension relative aux jonctions et montré que on peut représenter par un code de couleur les interfaces de cellules qui expriment E et N cadérine en bleu ou les cellules qui expriment qui n'ont pas N cadérine à l'interface, voilà, ou des cellules qui n'ont que E cadérine. On voit une augmentation progressive de la densité de myosine 2 qui corrèle avec une augmentation de la tension relative, en fait mesurée ici, la vitesse de relaxation instantanée après emblation qui, modulo un terme de friction, renseigne sur la tension à l'interface entre cellules. En utilisant un modèle thermodynamique qui décrit l'énergie des jonctions comme la somme d'un terme de tension de surface, donc proportionnelle à la longueur de l'interface, et puis un terme de tension élastique qui est en fait la propriété de l'ensemble de la cellule dans laquelle qui dépend en fait de la déviation par rapport à un périmètre de référence et une élasticité, un paramètre K. D'accord ? Donc en dérivant ça, on obtient donc la relation avec la tension locale à une jonction qui est la tension globale moins ce terme de tension élastique. Les auteurs mesurent en fait cette variation de périmètre par rapport à une valeur de référence en faisant une ablation qui isole la cellule et modifie donc son périmètre, qu'ils mesurent dans l'ordre de 8%. Et donc, en utilisant K comme paramètre qui permet de fitter les simulations en data, ils obtiennent, en se rappelant que K en fait, a la même dimension qu'une tension, et en normalisant à une valeur de référence qui est la tension entre les jonctions qui expriment E et N cadérine arbitrairement posées à 1, ils obtiennent une valeur relative donc de K qui est de 4,2. Et on voit ici donc les simulations numériques qui permettent de fitter avec les données expérimentales où on modifie donc l'expression de N cadérine. D'accord ? Ayant établi cela, les auteurs maintenant peuvent aller plus loin et en particulier évaluer le poids relatif des forces d'adhérence et des forces de tension corticale dans la tension d'interface. Et en particulier en décrivant que la tension d'interface, gamma loc, est égale en fait à un terme de tension corticale moins un terme d'adhérence. Le moins signifie en fait que, comme on l'a vu, l'augmentation d'adhérence tend à augmenter en fait les longueurs des jonctions, alors que la tension corticale fait l'inverse. Par ailleurs, le terme d'adhérence oméga en fait peut se décrire en termes d'une contribution de E-cadérine, et de N-cadérine. D'accord ? Donc, les auteurs peuvent obtenir gamma loc en fonction des expériences d'ablation à toutes les jonctions qui, en fait, est directement liée au terme gamma. Gamma, c'est la tension mesurée lors d'une ablation, d'accord ? En tout cas, à terme relatif. Et gamma loc peut s'obtenir en fonction de cela et de la modélisation que j'ai présentée à la diapositive précédente. Et en faisant l'hypothèse qu'il existe une corrélation linéaire entre la tension corticale générée par myosine 2 et les tensions résultant de l'expression de E et N cadérine et les concentrations de ces molécules mesurées expérimentalement par les auteurs, les auteurs ont fait en extrait une méthode de least square ils peuvent en extraire les valeurs de ces paramètres qui corrèlent en fait l'attention et les concentrations locales de ces myosines 2. Le système est surdéterminé avec trois paramètres pour cinq équations, et ils en extraient donc toutes ces grandeurs-là normalisées sur gamma log. Et ce que l'on voit donc est représenté ici à droite, et le point important est que la valeur sigma donc de la tension générée par myosine 2 est beaucoup plus importante que les contributions respectives de l'adhérence induite par l'expression E-cadérine ou de N-cadérine. Voilà. Donc on voit ici deux choses. Finalement, l'expression différentielle de cadérine induit une modification aussi de la tension corticale. Et on voit aussi que le poids de la tension corticale dans l'interface mesurée et qu'on peut modéliser pour rendre compte de la forme des cellules, en fait, a un poids dominant pour expliquer donc la forme des cellules. Donc la tension corticale est un paramètre majeur dans l'explication des forces de cellules, des formes de cellules. Une autre étude dont j'avais déjà parlé lors du cours de l'adhérence et qui est en fait maintenant un travail de l'équipe de Carl-Philipp Eisenberg, premier auteur Jean-Léon Maître, maintenant à l'Institut Curie, qui étudiait maintenant les cellules du poisson zèbre, les cellules du l'ectoderme, mésoderme et endoderme, qui ont donc différentes origines embryonnaires. Et on retrouve également le même type de modèle, avec une tension corticale opposée par une tension liée à l'adhérence, et puis une tension en fait, avec le milieu qui entoure la cellule, en utilisant des paramètres géométriques, qui donc l'angle en fait observé ici, les auteurs observent que entre l'ectoderme et le mésoderme, l'angle étant plus important ici, la tension relative normalisée sur gamma cm, identique pour toutes, gamma i pour l'ectoderme en fait est moins important. Donc gamma i, donc c'est cette valeur qui, comme tout à l'heure, sigma moins oméga, ici 2 gamma cc moins oméga, voit le poids, la contribution effective de la tension provenant de myosine 2 et du terme d'adhérence. Et on voit qu'il est moins important pour l'ectoderme que le mésoderme. On voit ici l'évolution au cours du temps. Maintenant, les auteurs essayent de déterminer la valeur de la tension corticale provenant de myosine 2, gamma cc. Et pour cela, ils font une expérience astucieuse qui consiste à associer trois cellules, puis à dissocier avec des pipettes deux d'entre elles, le volume de déformation de la cellule après cette dissociation renseigne, alors normalisé sur le volume de la cellule ici, est en fait inversement proportionnel en fait à la tension à cette interface gamma cc juste avant la dissociation, normalisé sur gamma cm, au sens où plus le volume est important, plus la tension est faible. D'accord ? Et donc en mesurant ce volume, les auteurs voient qu'il est plus important pour l'ectoderme. Et donc, on conclut que la tension gamma cc normalisée sur gamma cm est moins importante dans l'ectoderme que le mésoderme. Et donc, à partir de ces analyses, les auteurs en fait, démontrent, d'une façon très analogue à ce que je vous ai indiqué pour l'étude dans la rétine, que le poids de l'adhérence est faible par rapport à la tension générée par myosine 2, et que donc la myosine 2 et la tension corticale est l'élément déterminant expliquant les configurations dans les associations cellulaires dans ces poissons zèbres. Voilà ici donc les valeurs, les grandeurs de ces études. Oups. Voilà. Je voudrais juste finir en vous en revenant finalement à un article qui j'avais souligné dans l'adhérence, en disant que, vous vous souvenez, Albert Harris, en 1976, avait critiqué de façon très juste l'hypothèse d'adhérence différentielle en soulignant des différences très importantes entre les fluides et les agrégats cellulaires, que je ne vais pas rappeler, vous les avez sous les yeux et on en a parlé dans un cours précédent, mais j'avais omis à dessein de souligner un point très important, c'est ayant critiqué le fait que nécessairement l'adhérence médiée par les cadérines soit responsable du phénomène de tri cellulaire, Albert Harris avait proposé l'idée qu'en fait les phénomènes de tri et d'enveloppement pourraient simplement s'expliquer par une régulation différentielle de la tension corticale dont il avait connaissance à l'époque. Et je vous cite en particulier cette phrase: « The more strongly contractile a given cell type is over its exposed surface, the more internally it should sort out relative to other, less contractile cell types. It should be made clear at this point that this hypothesis also presumes a degree of intercellular adhesiveness and differs from Steinberg's hypothesis not in respect to whether intercellular adhesiveness occurs, but as to whether cell sorting and related phenomena are attributable to quantitative differences in adhesiveness. » Donc vous voyez ici une certaine préscience bien avant les études très récentes qui ont montré l'élément central de la régulation différentielle de la tension corticale comme expliquant les configurations cellulaires aux interfaces de cellules épithéliales adhérentes. Les conclusions de ce cours sont que la tension corticale est un paramètre central de la tension effective à la surface d'une cellule, en plus de la tension de la membrane. Elle émerge en fait des propriétés contractiles d'un moteur moléculaire en interaction avec des filaments d'actine cross-linkés les uns aux autres. Que la myosine est une mécano-enzyme extrêmement complexe qui en fait suit un cycle cinétique drivé par l'ATP et que l'énergie libre associée à la liaison de l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP et la dissociation des produits d'hydrolyse ADP et phosphate inorganique produit un travail mécanique à l'origine de la contractilité. La myosine 2 est régulée cinétiquement pour ajuster ce paramètre central qui est le rapport cyclique ou duty ratio à travers la régulation notamment de l'assemblage des minifilaments d'actine et les propriétés collectives de ces molécules dans ces minifilaments. La tension mécanique du réseau d'actomyosine dépend bien sûr des moteurs moléculaires, de la régulation du duty ratio, mais également des crosslinkers et de leur dynamique d'association-dissociation, des propriétés de déformation des filaments d'actine qui permettent l'accumulation d'un stress interne. Et enfin, la tension corticale est régulée non seulement par les propriétés des moteurs et des crosslinkers, mais également par les longueurs de filaments d'actine, ainsi que leur organisation spatiale. J'ai mentionné la densité de filaments parallèles, antiparallèles, l'organisation isotrope ou anisotrope de ces filaments, etc. La tension corticale, montre une régulation spatiale et temporelle, je l'ai brièvement mentionné en parlant cytokinèse, migration cellulaire, et également le cas d'écoulement de réseaux d'actomyosine à la surface d'une cellule. Et comme nous l'avons vu en toute fin, que même dans les cas où l'adhérence semble jouer un rôle déterminant, la tension corticale est cette variable cachée interagissant avec l'adhérence et joue un rôle central. Et finalement, à la fois pour conclure toute cette série de cours cette année, introduire vraisemblablement les cours l'année prochaine et pour ceux qui pourront rester discuter un peu tout à l'heure, je voudrais souligner, après avoir vu sur trois cours l'adhérence puis la tension cellulaire, souligner le fait que celles-ci sont interdépendantes. J'entends par là le fait que, comme nous l'avons vu pour l'adhérence, la tension exercée sur les complexes d'adhérence peut jouer un rôle de renforcement. Il y a des feedbacks mécaniques très importants. De même, ce que j'appelle comme conditions frontières, si un réseau contractile est connecté aux périphéries d'une cellule, l'interaction ou le lien entre la longueur hydrodynamique d'un réseau actomyosine et la longueur de la cellule et le fait d'être couplé ou non aux frontières de la cellule permet ou non de générer un stress interne qui peut rétroagir sur les propriétés des minifilaments et en particulier par cette propriété de strain dependent de la régulation du duty ratio en fonction de la déformation sur le réseau d'actomyosine. On voit que les couplages potentiels au système, aux frontières, notamment de l'adhérence dans une cellule épithéliale, peut jouer un rôle très important dans les propriétés de contractilité d'un réseau d'actomyosine. Donc, il sera important d'étudier plus avant cette interdépendance entre tension corticale et adhérence. Le deuxième point est le fait que, bien naturellement, non seulement interdépendance, le phénomène d'adhérence et de tension corticale sont intégrés. Je souligne en particulier la question des conditions dans lesquelles une jonction, une association entre deux cellules peut être renforcée ou remodelée. On verra l'année prochaine que dans les systèmes développementaux, les conditions qui permettent le remodelage de jonctions en fonction, par exemple, de cisaillement versus tension normale aux jonctions, joue un rôle important et il n'y a pas de compréhension à ce jour approfondie de cette intégration entre phénomène d'adhérence et tension corticale. Le point que l'on peut avoir en tête maintenant, et dans une logique maintenant tissulaire, c'est le point de contrôle spatial de ces propriétés, notamment en termes de motifs spatiaux et de dynamiques temporelles. Indépendamment de ces aspects de contrôle déterministe de la tension corticale, considérons maintenant des cas d'auto-organisation, j'en ai cité un, les cas des écoulements, mais il y a d'autres phénoménologies comme des contractions pulsatiles ou des vagues de propagation auto-organisées dans un réseau à l'échelle cellulaire ou même tissulaire. Et enfin, le point intéressant à explorer, de couplage mécano-chimique qui dépendent des propriétés des matériaux viscoélastiques au niveau cellulaire et à l'échelle du tissu. Voilà, donc j'en ai fini et je souligne, j'annonce plus exactement donc un colloque qui aura lieu le 10 avril au Collège de France, en lien avec ce cours ainsi que celui de l'année prochaine, qui concernera donc la mécanique et la morphogenèse des cellules et des tissus, même des organes, avec une liste d'intervenants très variés, des théoriciens comme Frank Hillischer et Mahadevan, des biophysiciens expérimentaux, des biologistes cellulaires, des biologistes du développement, des gens qui travaillent sur l'adhérence, sur les propriétés de contraction. Donc je pense que vous y verrez une extension, une exploration très actuelle de questions que j'ai commencé à aborder cette année et que j'aurai le plaisir de poursuivre l'an prochain. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité à ces cours.